Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Salut les fous du volant, bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission consacrée à l'actualité de la Formule 1. Je suis Gilles Delaposta et avec mon camarade Stéphane Vrignot, on va revenir sur le dernier Grand Prix en cours. Salut Stéphane.
En forme Gilles?
Écoute, impeccable. Le week-end dernier, on a donc assisté à la 10e épreuve de la saison 2021 avec la victoire de Lewis Hamilton à Silverstone. Une course avant tout marquée évidemment par l'accident entre le septuple champion du monde et Max Verstappen. Un accrochage qui fait beaucoup parler. On vous donnera notre lecture de l'événement, qui a tort, qui a raison. Justement, on en parlera. Ce 10e rendez-vous de la saison, c'est aussi l'occasion d'étrenner. C'était aussi l'occasion d'étrenner un nouveau format de week-end avec une course de qualification sprint le samedi après-midi. On essaiera avec Stéphane d'en tirer les premiers enseignements puisqu'il y aura deux autres expériences de la même sorte d'ici la fin de la saison. Ce Grand Prix de Grande-Bretagne à l'issue duquel on est passé tout près d'une victoire Ferrari grâce à un nouveau numéro dont Charles Leclerc a le secret. Alors est-ce que Ferrari peut être l'arbitre du duel entre Red Bull et Mercedes? Là aussi, on vous dira ce que l'on en pense. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes, de Deezer à Spotify, en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et puis aussi à vous abonner. Et de cette manière, eh bien, la prochaine fois qu'on produira un nouvel épisode des Fous du Volant, ça arrivera directement sur votre smartphone. Avant de commencer, les Fous du Volant aujourd'hui avec Stéphane, on voulait quand même marquer le coup parce qu'après le Grand Prix de Grande-Bretagne dimanche, Lewis Hamilton a été la cible d'une vague de messages insultants, racistes, à l'image de ce qu'a vécu notamment Marcus Rashford et ses coéquipiers de l'équipe d'Angleterre de football après l'Euro. Alors, on ne sait pas à quel point vous dire que ces messages sont infâmes, insupportables, et on pourrait vous sortir 50 qualificatifs synonymes, simplement pour vous dire combien on vomit ces agissements dans ce podcast. On donne des informations, on donne aussi régulièrement notre avis, notre vision d'une situation, on juge les performances, mais jamais l'origine d'un pilote, sa couleur de peau évidemment ou sa religion n'ont à faire partie du débat. Solidarité totale et absolue avec les sportifs ciblés par ce genre d'insultes, ça paraît évident, mais je crois que c'était important, Stéphane, de le dire avant de commencer.
Oui, on peut demander à ces personnes-là qui s'expriment via différents médias sur tous les réseaux sociaux de passer leur chemin. On en a parlé en préparant cette émission. Ces personnes-là peuvent même, si elles nous écoutent, partir tout simplement. Oui. Et on ne leur dit même pas merci.
C'est ça.
Au revoir.
Et à jamais.
Et à jamais.
On débute donc, c'est fou du volant, on va parler sport évidemment, même si on commence avec un gros dossier, premier tour de ce Grand Prix de Grande-Bretagne, accrochage énorme dans le virage de Copse, on est à 300 km/h et donc un choc entre Lewis Hamilton, la roue avant gauche de Lewis Hamilton et la roue arrière droite de Max Verstappen, les deux hommes s'affrontent pour la première place du Grand Prix. Sortie effroyable de Max Verstappen qui va taper le mur de pneumatique. On aura noté une décélération de 51G pour le pilote néerlandais qui va ensuite être emmené à l'hôpital. On ne décèlera aucune blessure grave pour le leader du championnat. Après cette course, après ce fait de course, on va en parler justement. En tout cas, après cet accrochage, Lewis Hamilton va écoper de 10 secondes de pénalité. Il va quand même remporter ce Grand Prix. C'est la 8e fois qu'il s'impose à Silverstone. Et désormais, sur les 33 points qu'il avait de retard en arrivant à Silverstone, il est revenu à 8 petites longueurs de Max Verstappen. Alors, bah justement, on débute dans le vif du sujet. Stéphane, à qui la faute pour toi ?
Sur le coup, je me suis dit, Hamilton va être sanctionné. Il ne pouvait pas en être autrement. Surtout, l'attaque était un petit peu inhabituelle. On ne voit pas ce genre de manœuvre à COPS, c'est plutôt à l'extérieur. C'est plutôt en course quand on a des différentiels de performance entre les voitures. Et là, on était au départ, les voitures étaient d'une compétitivité assez égale et c'était un risque que là prenait Hamilton, surtout par rapport à l'enseignement de la veille lors de la course sprint, où sa tentative à l'extérieur, cette fois-ci, ce qu'on voit plus couramment à COPS, avait échoué, et après ça, il n'avait plus porté une seule attaque. Il avait dit, Verstappen s'est échappé, je ne pouvais rien faire. Et quelque part, c'était là sa dernière chance de passer Verstappen, et il devait essayer. C'est un attaquant, il devait saisir sa chance. Et je dirais que quand un pilote s'engage dans ce type de manœuvre, il ne sait pas à 100% si ça va fonctionner, mais il s'engage et c'est sa vocation de pilote. C'est un attaquant, c'est normal. Sauf que malheureusement, ben, petite cause, grands effets. Et après ça, on se dit, il est quand même responsable. Voilà.
Alors moi, je n'ai pas la même vision. Et c'est marrant parce que tu viens de me dire finalement des arguments que je pourrais te ressortir. C'est son métier de pilote finalement que d'essayer. Et on voit bien qu'il l'essaye et qu'il comprend à un moment que ça ne va pas passer. Donc, il essaye de ralentir. Et il y a ce choc. Si tu veux, moi, il y a plusieurs choses. Évidemment, c'était un gros risque de tenter de passer à cet endroit-là. Mais comme tu le disais, je pense que dans la tête de Lewis Hamilton, à ce moment-là, il savait que soit c'était le moment d'attaquer, de prendre la tête du Grand Prix et d'avoir une chance de le gagner, soit sa chance passait et il allait faire deuxième derrière Max Verstappen. C'est sans doute pour ça qu'il a insisté un petit peu plus. Mais pour moi, ça reste un fait de course parce que c'est le métier d'un pilote de course d'essayer de dépasser ses adversaires sans savoir tout le temps si ça va se solder par une réussite ou par un échec. Heureusement que les voitures sont extrêmement solides, heureusement qu'il y a du dégagement à cet endroit-là, heureusement qu'il y a du bon vieux mur de pneumatique, comme on sait les faire sur les circuits historiques. Ça ne dispense pas que Max Verstappen va passer quelques jours froissé, parce que quand on prend 51G de décélération, j'ai jamais pris un 51G de décélération, j'ai pris un jour un gros choc latéral dans une voiture de course, on est quand même courbaturé pendant plusieurs jours, et je pense qu'il va mettre du temps à vraiment récupérer physiquement de cette grosse sortie de piste. Mais pour moi, c'est un fait de course. Et il n'y a pas lieu d'avoir pénalité. Et si tu veux, après, on peut très bien partir du principe que le jury des commissaires, et comme c'est ton cas à toi, et comme c'est peut-être le cas aussi d'ailleurs de personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent, et sachez que pour ceux qui regardent ces vidéos, ceux qui écoutent le podcast, votre avis vaut autant que le mien. Là, c'est vraiment une histoire de jugement. On vous donne le nôtre pour que vous ayez un petit peu aussi des éléments de comparaison. Mais si tu veux, pour moi, il y a une incohérence dans l'histoire, c'est que le jury décide que Lewis Hamilton est fautif, très bien, moi j'ai pas le même avis qu'eux, mais toi oui, donc ok. Mais après, s'il est fautif, alors c'est pas 10 secondes qu'il faut mettre de pénalité, il faut lui mettre une pénalité qui l'écarte d'une possibilité de victoire. Or, on sait très bien que 10 secondes, ça va pas l'empêcher de s'imposer. Et encore, heureusement, on sait pas d'où, d'ailleurs on y reviendra un peu plus tard dans ce podcast, il y a eu un numéro incroyable de Charles Leclerc qui a mis du suspense, mais sinon l'affaire était réglée. Donc pour moi, il y a deux erreurs. Une que je peux comprendre, c'est de juger Lewis Hamilton responsable, et la deuxième, c'est l'incohérence avec le geste qu'on lui reproche et la pénalité. Là, j'avoue que j'ai du mal à comprendre. Ces 10 secondes, ça fait quand même débat, t'es d'accord?
Oui, alors, j'en reviens un petit peu à ce que tu disais, le collège des commissaires qui décide, et dans ce collège, il y a un pilote qui a de l'expérience normalement, et là, en l'occurrence, c'était Emanuele Pirro, italien. Il décide de mettre une pénalité à Hamilton de 10 secondes et donc il augmente les chances, il sait qu'il va augmenter les chances de victoire de la Ferrari.
Oh là là
de
là
Charles
là.
Leclerc.
Oh
alors
non.
Attention,
oh non, c'est moche.
Là, je ne sors pas la théorie du complot parce que Emanuele Pirro a une quarantaine de Grands Prix au compteur en Formule 1. C'est pas n'importe qui, il a remporté 5 fois les 24 heures du Mans. Et c'est quelqu'un qui a l'habitude de ce genre de situation dans le trafic, évaluer la vitesse des concurrents, faire attention, avoir un comportement qui conforme au code de la piste, et son objectivité, je dirais, est totale, son impartialité est totale, parce que souviens-toi, Gilles, c'est au Grand Prix du Canada en 2019 qu'il avait décidé d'infliger une pénalité à Sébastien Vettel sur Ferrari, qui avait terminé deuxième, et cette pénalité le faisait rétrograder à la deuxième place. Il avait gagné.
Ah oui,
et
parce que
il était rétrogradé deuxième.
Si on rentre,
donc
si
ça
on
veut
rentre,
dire que
si on rentre dans ces histoires de nationalité,
non,
alors il faut pas un Allemand, faut pas un Britannique, faut
alors,
pas un
oui,
Français. Enfin,
alors,
on va
Gilles,
se retrouver avec des gens qui n'ont jamais fait de sport automobile.
Oui, oui. Non, non, mais c'est pas ça. C'est que la complication, effectivement, c'est que quand tu as un représentant des pilotes dans le collège, des commissaires qui est par exemple britannique et qui juge un pilote britannique, tu dis tiens, là, qu'est-ce qui va se passer? Moi, pour moi, il en faudrait trois pour que ce soit celui qui ne soit pas, je dirais, en connexion, qui se retrouve pas à juger un compatriote, qui puisse prendre une décision. Mais avec un pilote, simplement, déjà, ça fonctionne bien. Emmanuel Pirou est quelqu'un qui revient régulièrement dans le collège des commissaires. C'est un super pro. Et là-dessus, il n'y a pas de problème. Et on peut lui faire confiance. Et je pense qu'il a vraiment décidé de toute bonne foi.
Et en plus, il n'est pas, pas le seul à décider. Hein.
Non, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, parce qu'on a eu des jugements qui étaient à géométrie variable par le passé. La FIA dit deux choses. Elle dit les jugements seront beaucoup plus constants. Et puis, deuxièmement, on argumentera dans le rendu de la décision. Et je vois une chose quand même qui est claire dans ce que fait dire Emmanuel Pirou, c'est que la voiture 44 était légèrement derrière. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, on en revient à ce qu'on avait dit il y a 15 jours sur l'accrochage Norris-Pérez. Je t'avais dit, moi, il n'y a qu'une seule chose qu'il faut pour juger si un pilote est en situation, obtient les mêmes droits que le pilote qu'il veut dépasser, c'est est-ce qu'il a ses roues qui sont placées au même niveau que les roues de la voiture cible? Voilà, c'est tout. Et à partir de là, il est peut-être pas sur la même trajectoire, il est à côté et on ne peut pas faire n'importe quoi. Et là, Hamilton, en fait, malheureusement pour lui, il s'est engagé, mais il n'est pas parvenu jusqu'à ce point où il aurait pu effectivement prendre la main, on va dire, sur ce virage. Et encore, parce que dans un autre argument avancé par le Collège des commissaires, on dit que Lewis Hamilton était sur la trajectoire, mais pas sur la trajectoire pour atteindre le point de corde.
Il n'était pas totalement à la corde.
Ouais. Voilà. Et il n'avait pas la place à l'intérieur. Ça veut dire, grosso modo, qu'il s'est un petit peu retrouvé dans un trou de souris. Et c'est ce qu'on voit bien. C'est que Hamilton, en fait, il décide de ralentir parce qu'il s'aperçoit que ça ne va pas le faire.
Et oui, mais c'est
on l'a dit encore, il doit s'engager, c'est son métier.
Mais c'est pour ça que c'est ses roues avant qui touchent les roues arrière. Et c'est pour ça qu'il est un peu derrière au moment du choc. C'est parce qu'il ralentit.
Après, ça, c'est un...
Si on dit, ah ben non, mais ça veut dire qu'il était derrière, la prochaine fois, il va rester pied au plancher. Et l'accident sera peut-être encore pire.
Oui, alors, s'il passe effectivement juste au niveau de Verstappen à la corde, je dirais qu'il roule dessus quand même à la sortie parce qu'il est emporté par son élan et il faut qu'il tente sa trajectoire. Il se retrouve quand même appuyé sur Verstappen. Donc, c'est vraiment délicat de passer dans ce virage-là, je dirais. Mais encore une fois, c'est une petite erreur de jugement, mais grande conséquence, mais c'est surtout pas un acte irresponsable, etc. On ne parle pas de ça. C'est que il s'est retrouvé dans une situation où il a été coincé, finalement,
il était piégé.
Et puis il a été déclaré. Voilà, exactement. Il a été jugé principalement responsable de l'accident.
Et d'ailleurs,
même si Verstappen ne lui a pas laissé trop de place.
Et d'ailleurs, dans le document officiel publié par la FIA, on dit la voiture numéro 44 est jugée principalement en défaut. Ce qui veut dire que voilà, ça s'est joué à pas grand-chose au niveau des responsabilités. Bon, moi, encore une fois, je dis que pour moi, c'est un fait de course. Et pour avoir échangé quelques messages avec plusieurs anciens pilotes, je crois que du côté des anciens pilotes, c'est assez unanime. Ça s'appelle un fait de course. Et les pilotes sont là. C'est clair qu'à l'endroit où il était, c'était trop tard pour freiner, en tout cas suffisamment pour éviter le contact. Il y a un moment où l'engagement, finalement, fait que il y a un point de non-retour. Après, si je peux me permettre, maintenant, si je veux être même un peu provocateur, Stéphane, on peut aussi mettre une part de responsabilité sur les épaules de Max Verstappen, parce que Max Verstappen, pour moi, il a manqué un tout petit peu de recul sur la situation, et il n'a pas changé de logiciel au départ de ce Grand Prix. C'est-à-dire qu'il a continué de rouler de manière toujours aussi agressif qu'il le fait, c'est son pilotage et c'est aussi pour ça qu'on l'admire et qu'on adore sa façon de faire. Mais il y a un moment, je pense, où il faut changer de logiciel et passer. Là, en fait, si tu veux, il a piloté comme si c'était lui le chasseur. Or, il est leader du championnat avec plus de 30 points d'avance sur son adversaire. Et à ce moment-là précis de la saison, c'est à lui, finalement, peut-être de calculer un petit peu plus que Lewis Hamilton et de se dire, bon, là, c'est trop chaud. En plus, il est à l'extérieur. Donc, Ok, j'ai perdu cette bataille-là, je vais essayer de le dépasser, je vais essayer de le dépasser plus tard. Je sais que c'est un argument qui est difficile à comprendre, mais je pense quand même qu'il y a eu une toute petite erreur de, tu vois, non pas sur le moment en termes de pilotage, mais d'approche. Je pense qu'on a, il avait pas l'approche d'un leader de championnat, ni sur la course de qualification d'ailleurs, hein, où il est très agressif et où finalement ça passe, ni sur cette course-là. Et je pense que ces 25 points de perdu d'un seul coup, il aurait peut-être pu limiter la casse en changeant de logiciel.
Moi, je suis d'accord avec toi, Gilles. Sur la pénalité de 10 secondes, Helmut Marko a dit Perez sort deux pilotes en fait, qui ne sont pas allés à l'extérieur de la piste, qui ont pu continuer. C'était à Spielberg.
Oui.
Il doit parler de Leclerc et il a eu 5 secondes de pénalité. Et là, c'est simplement 10 secondes pour un choc à 300 km/h, une voiture absolument détruite et un pilote qui aura peut-être pu y perdre la vie. Donc, ça lui paraît disproportionné. Et Helmut Marko, il n'y va pas par quatre chemins. Il a dit qu'il aurait dû avoir 10 secondes de pénalité et un drive-through. Carrément. Et là, en fait, Red Bull a engagé même un avocat pour savoir ce qui est possible de faire, puisque les parties peuvent interjeter appel sur cette décision-là. Pour demander une sanction plus lourde. Alors, les 10 secondes, on ne les retrouvera jamais, Hamilton les a purgées, mais là, il est question de demander pour Red Bull une suspension, carrément, de Lewis Hamilton. Alors, bon, écoutez, Helmut Marko, Lewis Hamilton, il sera en prison au prochain Grand Prix. Ça, c'est, on est bien d'accord.
C'est Helmut Marko en même temps, donc
voilà.
Bon.
Alors, moi, je te rejoins sur le point précis, c'est qu'un fait comme ça, s'il se passe à 150 km/h, ça touche un peu, le pilote va à l'extérieur, c'est arrivé mais des dizaines de fois.
Bah, c'est arrivé en Italie en début de saison.
D'accord. Tout à fait, tout à fait. Et tu parlais effectivement de Verstappen qui n'a pas changé de logiciel. Il avait dit en début de saison, mon but, c'est de continuer comme ça, d'éviter les contacts. Enfin, c'était, on avait cru voir un nouveau Verstappen.
Et on avait noté une maturation. On avait noté une maturation, Stéphane. Or là, je trouve qu'il a manqué un petit peu de ce dont il avait fait preuve à plusieurs reprises depuis le début de la saison.
Il a manqué de cet instinct de conservation qu'a développé Lewis Hamilton depuis bien plus longtemps. Et Lewis Hamilton lui a dit, je lui ai laissé de la place au virage numéro 6 dans le premier tour, donc dimanche. Et Lewis Hamilton, il avait même une demi-longueur d'avance de voiture. Oui. Mais sauf que Verstappen avait la corde pour lui et lui a laissé mais de la place, mais royalement. Et Verstappen ne lui rend pas ça, cette politesse, on va dire, en retour au virage numéro 9 dans COPS. Et Lewis Hamilton avait été un petit peu échaudé de ce qui s'était passé à Imola, mais là, il avait poussé un petit peu trop loin le bouchon. Il s'est retrouvé un petit peu sur le côté, sur les bordures. Il avait un petit peu, je crois, abîmé un aileron avant ou un bargeboard. Ce n'était pas grand-chose. Mais c'est surtout le départ à Montmelo, Grand Prix d'Espagne, qui l'avait beaucoup plus refroidi. Et là, il avait dit, j'en ai appris un petit peu plus quand même sur Max Verstappen, en promettant aussi de piloter à la dure au prochain coup.
Et c'est ça, je voulais qu'on anticipe un tout petit peu rapidement, Stéphane, parce que cet extrait quand même est assez long, mais c'est important parce que ça va changer la suite, ça va teinter la suite de la saison.
C'est le tournant.
Tout le monde a pensé, je pense, au duel Prost-Senna. Je pense qu'il faut rester dans la mesure et parler plus, par exemple, de l'accrochage entre Hamilton et Rosberg à Barcelone en 2016. Où d'un seul coup, on franchit un cap dans, j'allais dire, l'animosité, oui, en tout cas dans l'adversité, et où là, ça va clairement changer la donne sur la suite de leur relation et de cette saison 2021.
Oui, alors on a dit l'année dernière et encore en début d'année, enfin pour moi personnellement, Max Verstappen me fait beaucoup penser à Ayrton Senna et il a une mentalité jusqu'au boutiste comme l'était le Brésilien vraiment.
Et, Hamilton n'est pas mal non plus.
Il a un entourage quand même aussi qui le pousse à ça. Je pense que entre Hamilton et Verstappen, tout est en place pour une fin à la Prost Senna.
Exactement.
Clairement. Ouais. J'imagine en fin de saison un accrochage avec le champion du monde dans le bac à sable qui expliquera à son rival que tu l'as bien cherché. Voilà, bon. Ça sera un petit peu ça. On risque d'aller vers ça en tous les cas. Tout est en place, à mon sens, pour ça. Et puis, on entretient ça chez Red Bull. Jos Verstappen a dit qu'il pensait, enfin, qu'il estimait qu'il avait été déçu du manque d'égard de Toto Wolff, qu'il l'appelle depuis des années assez souvent pour lui demander comment ça va. Il a dit, c'est même plus l'appel qui m'appelle, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Donc, on coupe les ponts, on y va, on va vers quelque chose de plus radical et je pense qu'il y aura encore d'autres frictions.
Ouais, je pense qu'on reparlera de ce sujet tout au long de la saison. Juste une toute petite remarque, Lewis Hamilton a répondu ensuite, après le Grand Prix, à une interview de la télévision britannique et manifestement il n'était pas au courant que Verstappen était encore à l'hôpital. Et moi je l'ai senti très mal à l'aise, Lewis Hamilton, qui habituellement est vraiment très, très, très à son aise devant les médias. Il avait un rire qui était très saccadé et je pense qu'au fur et à mesure que le temps passait par rapport à cet accident, plus il se rendait compte, Lewis Hamilton, qui est quelqu'un de très respectable et de très respectueux, du décalage qu'il y avait entre la célébration de cette victoire devant un public avec 160 000 personnes, une victoire d'un Britannique, et la joie, toutes les démonstrations de joie. Pendant ce temps-là, il y avait effectivement un pilote qui était en train de faire des examens dans un hôpital. Et je pense que petit à petit, il se rendait compte du décalage qu'il y avait entre les deux. Et je pense que ça l'a gêné, honnêtement. Sur le coup, Hamilton, c'est un tueur, c'est un pilote voilà, qui est septuple champion du monde. On n'est pas septuple champion du monde sans avoir envie absolument de précéder ses adversaires. Mais ensuite, après, je pense que l'humain, et qui est un humain, un bel humain, Lewis Hamilton, a pris le dessus et je pense qu'au fur et à mesure, il se rendait compte du décalage. Et je ne serais pas étonné, que de son côté, on essaye quand même de calmer un petit peu le jeu directement avec Max Verstappen. Tu vas voir, d'ici le Grand Prix de Hongrie, il y aura un geste. J'en suis à peu près convaincu de la part de Lewis Hamilton. Pour dire à Max Verstappen, il ne faut pas qu'on aille là-dedans, parce que c'est pas son ADN à Lewis Hamilton, l'homme.
On est d'accord, et tu as bien vu aussi Gilles à l'interruption de la course, après cet accident. Hamilton était quand même très embarrassé, il n'était pas fier. Hein. En regardant l'accident de Verstappen, il a bien pris conscience, il sait que ça a tapé très fort. Et il savait à ce moment-là que Verstappen
à ce moment-là,
avait quand
on
même
peut...
été très, très secoué. On l'a vu, Verstappen sortir péniblement de sa voiture. Il savait ce qui s'était passé, clairement. Après, il a été un petit peu embarqué par, effectivement, la remontée. C'est beaucoup d'adrénaline. C'est une ambiance, c'était de l'euphorie dans le public. Et tu te laisses un petit peu emporter par ça et tu oublies un peu momentanément, oui. Voilà, les circonstances du début de course. Est-ce qu'il faut lui en vouloir pour ça?
Ah non, il faut pas lui en vouloir.
Chez Red Bull, on trouvait qu'il y avait un décalage, c'est clair. C'est peut-être plus l'absence de manifestations concrètes. Mais Hamilton a tweeté aussi quelques heures après la course en disant le plus important, c'est que Max aille bien, qu'on fasse des batailles à la loyale en piste et je l'appellerai pour qu'on parle de ça. Voilà. Donc, il faut vraiment apaiser les choses là-dessus. Comme tu dis, Gilles. Peut-être que des intermédiaires essaieront de rapprocher les parties aussi. Ça, c'est le rôle un peu des équipes, de la fédération, du promoteur du championnat. Mais
ça dépend lesquels. Hein.
Après, c'est l'instinct, c'est la nature même du pilote qui reprendra le dessus dans la bagarre, dans les prochains Grands Prix. Et là, on ne sait pas trop ce qui pourra arriver.
Exactement. Alors, ce qui est clair, c'est que dans les prochains jours et les prochaines semaines, ce qui s'est passé là à Silverstone, teintera la suite, qu'on essaye de recoller les morceaux. Non, c'est pas possible, il y a une adversité entre les deux, mais au moins un petit peu de calmer le jeu, justement pour éviter qu'on en arrive à ce qui s'était passé entre Prost et Senna. Affaire à suivre, donc. Alors, ce Grand Prix de Grande-Bretagne, avant évidemment la course en elle-même qui a été haute en rebondissement, ça a été l'occasion d'étrenner le nouveau format de compétition avec une qualification, on va dire classique, le vendredi, Q1, Q2, Q3, et puis donc une course de qualification sprint le samedi après-midi qui détermine elle-même la grille de départ du Grand Prix dimanche. J'espère que vous m'avez bien suivi. Avec en plus comme règle le parc fermé, c'est-à-dire que l'auto qui fait la course sprint samedi, c'est-à-dire 17 tours, eh bien, est strictement la même que celle qui va prendre le départ du Grand Prix du dimanche, 52 tours. Donc, c'est une difficulté supplémentaire. Alors, on en a parlé la semaine dernière, Stéphane, tu étais plutôt, on va dire, vent debout contre cette idée. Ça n'a pas changé.
On a discuté du terme, tu m'as dit, Gilles, c'est assez bizarre, la course
s'appelle de qualification sprint.
Oui. Oui, tout à fait. Alors, la qualification, il faut rappeler ce que c'est. Il faut faire 107% du tour le plus rapide, de l'auteur du tour le plus rapide en Q1. Et c'est à partir de là que tu sais que tu es qualifié pour la course, pour participer à la course. Ça veut dire que même la Q2, c'est plus une qualif, si tu veux, parce que tout le monde sait, c'est du rangement. Voilà, et la Q3, encore plus. Donc, il n'y a pas lieu d'appeler ça course de qualification. Mais comme le promoteur a vu que ça grinçait des dents et qu'on déplaçait la qualif, qu'on en faisait autre chose le samedi, il a quand même essayé d'appeler sa qualif pour dire « Attendez, pas de panique, c'est quand même qualif le samedi. » Ce n'est pas du tout ça. Voilà. Et cette nouveauté qu'on nous a présentée est coincée un petit peu de façon bancale, moi, je trouve, entre une qualif où effectivement on pratique le régime de parc fermé le vendredi et puis la vraie course du dimanche. Et je dirais que on a vu des voitures qui tournaient avec peu d'essence, il y avait beaucoup d'excitation, mais finalement, je trouve que ça fait pchit, Gilles. Au bout du premier tour, on avait le top 4 qui était figé. Verstappen s'est échappé, Hamilton a dit « je ne pouvais rien faire », Bottas a roulé tout seul, et puis Leclerc a dit « je me suis éclaté, mais il n'y avait personne devant moi, personne derrière. » Bon, et je pousse le bouchon un petit peu plus loin, mais à peine, parce que cette course a fait 17 tours, mais finalement, elle aurait pu faire 9 tours, ça aurait amplement suffi, puisque au bout de 9 tours, on avait le top 10 définitif. Et après, voilà, il s'est rien passé, ou presque. Alors, Alonso a fait son show, c'est bien, c'est un petit peu au cœur du peloton, tout ça. Perez a fait une erreur. Sainz s'est fait balancer par Russell. Est-ce que c'est ce qu'on veut voir? Voilà, c'est la question. Mais je te dis, au bout de 9 tours, c'était fini. Moi, pour moi, il n'y avait plus de spectacle, c'était terminé.
Ben, moi, j'ai toujours un avis différent du tien, parce que j'aimerais bien qu'on dissocie, en fait, si tu veux, le déroulement de cette course de qualification. Par contre, je suis d'accord avec toi sur l'appellation. Pour moi, il ne faut pas appeler ça une course de qualification, il faut appeler ça une course sprint, si vous voulez. Voilà. Et la qualification, il faut laisser cette appellation à ce qui se passe le vendredi avec Q1, Q2, Q3. Et d'ailleurs, donner l'appellation pole position à l'issue de la Q3 et non pas à l'issue de la course de qualification.
Rosbourg y est prêt et est prêt à revenir là-dessus, je pense effectivement, pour le prochain coup.
Voilà,
une erreur historique.
Voilà, pense que c'est dans la logique des choses et qu'il va falloir... Voilà, il faut réajuster. On ne peut pas tomber juste du premier coup. La F1 a 70 ans, hein, donc forcément, l'organisation du premier Grand Prix, c'était pas la même que celle qu'on a aujourd'hui. Donc, on a peaufiné au fur et à mesure. Mais donc déjà, effectivement, sur l'appellation qualification, je suis d'accord avec toi. Après, sur le format, moi, j'ai trouvé ça intéressant pour deux choses. Un, parce que déjà, j'aimerais bien qu'on mette de côté le déroulement de la course. Il faudra avoir plusieurs courses sprint pour voir si effectivement, il ne se passe jamais rien ou s'il y a quand même des choses un peu différentes de la course. Mais après, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, vraiment beaucoup aimé, c'est de voir l'état des pilotes en descendant des Formule 1. Les pilotes étaient pas fatigués, parce que 17 tours... C'est des monstres, hein. Les pilotes en Formule 1, je sais pas pour ceux qui nous écoutent ou ceux qui nous regardent, sachez que vous ne prendrez jamais un pilote de Formule 1 à la course à pied, au vélo...
ni au triathlon.
Voilà, ouais. Exactement. Ils vous dépouillent, c'est des monstres. Donc, 17 tours, ils les font. Sauf que là, c'est 17 tours à fond, parce que la voiture n'est pas chargée en essence et qu'on y va, c'est pour la performance. Donc, il n'y a pas de question de « je roule à 3-4 secondes des temps autour pour économiser les pneus ». Et donc, forcément, le capital physique du pilote, il n'est absolument pas entamé. D'ailleurs, Charles Leclerc l'a dit, hein, « je suis plus fatigué là qu'après un Grand Prix ». Ça, j'ai bien aimé, parce que là, vraiment, blam, on y va. Et dans ces circonstances-là, on a bien vu qu'il y avait des pilotes qui souffraient un peu plus, et puis d'autres qui s'illustraient un peu plus. On a encore revu un Fernando Alonso qui nous a refait un peu le coup de Bakou, où finalement on a eu une course sprint sur la fin du Grand Prix à Bakou. Alors après, l'Alpine ne peut pas tenir le rythme des McLaren qui repassent devant, mais on voit des petites choses, on voit des étincelles, et puis... Je vais terminer, après je te repasse la parole, ça fait un moment que je l'ai, Stéphane, je m'en excuse.
Mais, je t'en prie.
Il faut aussi comprendre que les amateurs de Formule 1, mon cher Stéphane, ils vieillissent. Chaque année, ils prennent un an et le renouvellement des générations n'est manifestement pas assuré dans cette discipline. Il y a des cas comme ça, en tennis, c'est pareil, la fédération de tennis est inquiète parce qu'ils voient que les licenciés, les spectateurs, les téléspectateurs sont de plus en plus vieux et qu'il faut renouveler. Donc, il faut renouveler par des choses qui éventuellement plaisent aux jeunes. Et j'ai envie de te dire, mon Stéphane, c'est peut-être un peu normal que ça ne nous plaise pas forcément parce qu'on n'est plus dans la cible. Ce qu'on va aller chercher, c'est les minots, c'est les jeunes, pour les ramener vers la Formule 1. La Formule 1 a besoin aujourd'hui de revoir des jeunes gens aller sur les circuits, avoir envie d'aller chercher un autographe. Alors, il va falloir changer beaucoup de choses parce qu'aujourd'hui, pour avoir un autographe d'un pilote de Formule 1, il faut être privilégié, ça aussi. Il va falloir à un moment y réfléchir un petit peu. Mais tu comprends ce que je veux dire. Il faut remettre remettre des choses en cause et changer profondément sans doute la Formule 1. Et moi, je trouve que cette initiative, eh bien, il y a des choses intéressantes à revoir, à corriger, évidemment, mais il y a des choses très intéressantes que j'ai vues samedi.
Alors, pour moi, cette course sprint, c'est un teaser finalement, et elle a été diffusée, je crois même, en accès en gratuit sur le site de la F1. Donc, il fallait vraiment aller chercher un nouveau public. Ross Brawn, le directeur sportif de la F1, de la Formule 1, nous a dit, a justifié l'existence de cette course de 30 minutes. Hein, finalement, c'est très très court, hein, par le fait que on était dans des formats maintenant. Beaucoup plus court en termes de divertissement, de spectacle. Bon, j'oublie pas quand même qu'un bon film, ça peut faire 2h, 2h30 sans problème, hein, et que les jeunes regardent aussi ça. Mais lui, c'est un point d'entrée, c'est un point d'accroche. Une demi-heure, voilà, pour vendre un petit peu le produit Formule 1. Après, une séance de qualif, ça dure 1 heure. Une course, ça dure 1h30. Et pour moi, ça ne remplacera pas la course où tu as vu dimanche qu'on a eu une dramatique absolument exceptionnelle. C'est-à-dire que sur 52 tours, un pilote peut partir avec un handicap, effectuer une belle remontée. On en a vu plusieurs cette saison et obtenir quelque chose d'absolument génial. Et surtout, Brawn nous a proposé cette course sprint sur le constat erroné l'année dernière que les courses n'étaient plus intéressantes. On en a eu 10 cette année. Il y en a 2 véritablement où on s'est ennuyé. Il y en a plusieurs qui ont été géniales. Le cas type, c'est le Castellet où Verstappen avait déposé Hamilton au dernier moment. Là, c'était Hamilton qui a doublé Leclerc. Donc, je ne suis pas trop inquiet pour le format, en fait, je dirais. Voilà. Alors, quand on a préparé aussi l'émission, tu m'as dit, mais tu te rends compte, en fait, voilà, les voitures, c'est autre chose avec peu d'essence. Et Charles Leclerc a d'ailleurs dit qu'il faudrait peut-être en venir au ravitaillement en course. Alors ça, c'est un pour des problèmes de sécurité, deux pour des problèmes de coût. Ça ne va pas dans le sens de l'histoire. Et je dirais que le problème, véritablement, c'est le poids des voitures. Elles font 752 kg cette année. Elles font 790 kg l'an prochain. Tu ne sais pas pourquoi. Voilà.
Elle est batterie
ben oui, d'accord. Alors, on va peut-être terminer aussi par des formules à biplace. J'en sais rien. Ou tu auras un passager en course.
Ça serait génial.
Mais bon… Je comprends bien tout ça. Il faut quelque chose, un format coup de poing, je dirais, pour faire bouger un petit peu les lignes. Donc là-dessus, je suis d'accord. Et la Formule 1 gagnera peut-être. Quand tu me dis, il faut renouveler effectivement les générations. On le voit quand même aussi dans le public. Il y a des jeunes passionnés. J'en sais aussi ce que c'est, des très jeunes passionnés.
Je crois qu'on en a
donc,
tous les deux à la maison.
Voilà, ouais. Donc là-dessus, je suis pas inquiet. C'est simplement un petit peu sur le format. Et puis, ce qui m'a gêné, franchement, c'est qu'effectivement, c'est une séance d'essai libre pour tout mettre en place. Et la grande victime de l'histoire, finalement, c'est Pierre Gasly. Il faut avoir le bon setup très, très vite. Autrement, t'es fichu. Tu t'en remets pas. Et d'ailleurs, les équipes ont travaillé plus le vendredi lors de la première séance d'essai libre, la seule séance d'essai libre vendredi, sur les relais parce qu'ils étaient doublement gagnants pour la course du samedi et pour la course du dimanche. Mais si tu n'es pas dans la fenêtre de tir, tu es fichu. Ton week-end, tu le mets à la poubelle. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage. Si tu veux, le problème pour moi, c'est qu'en Formule 1, un pilote construit son week-end sur 3 jours avec ses techniciens, sur les réglages, on affine. Et puis après, on pilote. Bon. Et là, on a obtenu quelque chose de complètement inversé, c'est-à-dire que tu as une base de réglage, après, tu ne touches plus, tu ne travailles plus ça, alors que c'est de la finesse technique, c'est de l'approche, tu veux faire la voiture à ta façon de piloter, comme tu l'aimes, et bien, il y en a qui n'ont pas pu.
D'accord.
C'est ça qui est dommage. Et puis le dimanche, tu entends tous les tours ou presque, change ton différentiel, le mapping, c'est ça, fais attention à tes pneus, etc. C'est-à-dire que les types ne pilotent plus. Voilà. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils prennent du plaisir, à part le samedi. Voilà.
Exactement, mais je pense que ça aussi, ça fait partie des petites choses qu'il faudra corriger. Éventuellement, tu vois, faire une liste des choses qu'on peut modifier sous régime de parc fermé. Je pense par exemple, tout bêtement, l'inclinaison des ailerons, évidemment, entre une course sprint et une course longue, on a besoin d'avoir des réglages sur l'auto un petit peu différents. Bref, c'était une première expérience et je pense qu'il faudra quand même peaufiner un petit peu voilà, sur des détails, mais pour permettre une progression des équipages, on va dire comme ça, des packages tout au long du week-end.
Alors, réformer la Formule 1, c'est quand même très, très difficile. Toto Wolff était contre ce format de course sprint. Je comprends bien, il a une position de
normal,
il veut qu'il change. Il a dit qu'il faudrait aller à un maximum de 5 courses à l'avenir parce que Brawn en a déjà prévu 6 l'an prochain, avant même de savoir si ça allait fonctionner. Tu vois que c'est tout est ficelé. Bon, donc Toto Wolff, le boss de Mercedes, a dit pour 5 courses, OK pour 5 courses l'an prochain, sur des circuits qui apporteront quelque chose parce que ça n'a pas de sens de faire ça à Monaco. Et comme tu disais, des réformes, affiner les nouveaux formats, c'est aussi important. Et je glisserai juste un petit mot aussi sur cette réforme de 2019 qui a été faite pour le meilleur tour en course aussi, que moi j'ai perçu un petit peu comme un gadget, comme j'arrive pas trop à comprendre le fond de cette course sprint, dans tous les cas que je voudrais pas voir systématisée en course. Mais ce que je regrette, c'est qu'on nous a présenté ça pour dynamiser le spectacle en fin de course. Ah, qui allait faire le meilleur tour en course? On a vu, on voit tous régulièrement que c'est réservé à un ou deux pilotes en fin de course, parce qu'ils ont de l'avance nécessaire sur le pilote suivant. Ils peuvent rentrer au stand, prendre des gommes tendres et puis chasser le meilleur tour en course et récupérer le point bonus, mais ce n'est pas quelque chose d'équitable. Et dimanche, ce nouveau meilleur tour en course, en fait, qui était à l'origine de la Formule 1 en 1950 quand même, qu'on a proposé comme une petite révolution, mais en fait, il a été détourné, vidé de son sens par Pérez, qui était hors du top 10, donc qui ne pouvait pas marquer ce point du meilleur tour en course, mais qui est allé passer au stand, prendre des pneus tendres neufs, pour priver Lewis Hamilton du meilleur tour en course. Donc je trouve ça un petit peu cynique, entre guillemets. C'était le jeu de Red Bull. Et là-dessus, si on veut faire un petit aménagement, je dirais tout simplement que pour avoir le point du meilleur tour en course, il faudrait la règle des 2-10, c'est-à-dire effectivement que tu termines dans les 10 premiers, donc ce qui est le cas aujourd'hui, et puis que tes pneus aient 10 tours déjà quand tu fais ton meilleur tour en course. Comme ça, on n'aurait pas des choses un petit peu parasites qui nous gâcheraient un petit peu
il faut y réfléchir.
L'objectif de ce meilleur tour en course qui vise à apporter plus de spectacle. Donc dans l'esprit, c'est bien, mais c'est un petit peu détourné de temps en temps.
Enfin, il faudra réfléchir aussi à ça. Mais bon, comme quoi, il y a du travail, mais tu vois, on avance parce que même toi, tu te dis qu'il faut. Il faut faire évoluer la Formule 1. Et voilà, c'était une première expérience. Ce format de week-end, il sera aussi utilisé, si je ne me trompe, à Monza, c'est ça, pour la deuxième fois?
Oui, tout à fait. Et puis confirmation encore pour le Grand Prix de Sao Paulo, voilà. Qui s'appellera Grand Prix de Sao Paulo, à Interlagos, en fin de saison.
Donc on reverra ces courses sprint de qualification qui, à mon avis, ne s'appelleront plus comme ça. Alors, la course de dimanche. Évidemment, on a parlé de l'accident entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, mais il y a quand même eu encore une fois un numéro invraisemblable de Charles Leclerc, qui est le diable, qui est sorti de sa boîte après l'accident de Max Verstappen, qui a fait quasiment toute la course en tête pour finalement succomber à deux tours de l'arrivée à la remontée inexorable et irrésistible de Lewis Hamilton. C'est le premier podium de Charles Leclerc cette saison, le deuxième pour la Scuderia, après la deuxième place obtenue par Carlos Sainz à Monaco. Et donc, on se demande si Ferrari pourrait aller chercher une victoire, ou en tout cas être l'arbitre du duel entre Red Bull et Mercedes cette saison. Stéphane, qu'en penses-tu, toi ? Il a quand même fait un sacré numéro, encore Charles Leclerc. Est-ce que ça peut lui permettre de rêver à une victoire ?
Alors, Charles Leclerc remet quand même Ferrari sur le devant de la scène. Ferrari avait accompli un tour en tête lors des 27 courses précédentes. Là, c'est marée basse, hein, c'est chez les rouges. 49 tours en tête, c'est ce qu'il avait fait avec Vettel à Singapour. Il y a deux ans, ils avaient compilé 50 tours à E2, donc ça remonte quand même. Comme quoi, on a perdu l'habitude de voir les Ferrari en tête. Donc, c'est ça qui est très important. C'était presque à la régulière, on va dire, parce que Verstappen était éliminé, parce que Lewis Hamilton était retardé. Je dirais d'abord que moi, ce qui m'a surpris, au-delà de ça, c'est l'attitude de Charles Leclerc, qui s'est fait balancer deux fois il y a 15 jours par Pérez à Spielberg, qui n'a pas fait de pataquès, qui sent que cette année-là, elle est là pour de la maturité, pour se préparer à ce genre de frustration aussi qu'on peut vivre, pour être prêt le jour où il faudra, l'année où il faudra lutter pour le titre mondial. Et puis, il est battu par Hamilton à trois tours de la fin. Tu as vu l'accolade à la fin ? Il est en train de parler à Lewis Hamilton, ils sont souriants. Il a montré de la déception un peu aux caméras, mais pas trop. Il reste très positif. Il sait qu'il est un formidable élément moteur dans cette équipe. Et je dirais qu'on a vu des progrès sur l'exploitation, parce que la Ferrari n'évolue plus, comme quasiment la Mercedes. Ils ont mis quelques pièces à Silverstone, mais il y a les trois quarts du plateau des voitures n'évoluent plus, il n'y a plus d'évolution technique, on prépare 2022. Ça veut dire que c'est du réglage, de l'exploitation, et à ce niveau-là, Ferrari a fait des progrès absolument spectaculaires. avant les premiers essais, Charles Leclerc disait « Normalement, notre force, c'est d'arriver avec une base de réglage pour la voiture qui est déjà très, très bonne pour les premiers essais libres. On pose la voiture, déjà, on est bien. » C'est exactement ce qui s'est passé. Et ce week-end, c'était particulièrement important avec une seule séance d'essais libres avant qualif, course sprint, course en régime de pare fermée, c'est-à-dire quasi impossibilité de modifier les réglages de la voiture à part l'incidence des volets sur l'aileron avant et les pressions de pneumatique. Et je crois à la marge, les différentiels. Donc, à ce niveau-là, Ferrari, maintenant, a ciblé, a tapé dans le mille. Et Mattia Binotto l'a dit, d'ailleurs, on n'était pas bien pour ça en course depuis le début de la saison. Et ça fait deux courses qu'on est très, très bien et on en progrès. Et c'est une réaction qui a été engagée après le fiasco, je dirais, du Castellet. J'y reviendrai, Gilles, avant de te laisser la parole. Mais il y a eu une prise de conscience. Et là-dessus, on a vraiment travaillé au niveau de la cellule d'exploitation. Et ça va beaucoup mieux. Et c'est pour ça que Ferrari est bien mieux, bien plus compétitif en course.
Alors, pour en revenir à l'attitude de Charles Leclerc, à la fois après le Grand Prix, où il était évidemment déçu parce que je pense qu'il a cru qu'il allait vraiment s'imposer, mais il y a eu un ascenseur émotionnel exceptionnel quand même pour Charles Leclerc, qui a quand même eu des alertes moteurs et on lui a demandé d'aller chercher dans les menus sur son volant, cherche le menu P30, machin. Enfin bon, c'était hallucinant. Nous, on n'a pas le droit de téléphoner au volant quand on est à 50 km/h en ville. Lui, il est à 300 à Silverstone et il faut qu'il aille chercher le menu 50 sur sa voiture. Ça, faudra peut-être quand même un jour y réfléchir un tout petit peu. C'est pareil, une notion de cohérence. Il y a peut-être des interventions qu'on ne doit pas pouvoir demander à un pilote. Un pilote, c'est un pilote, c'est pas un informaticien non plus. Bref, ça c'est une petite parenthèse. Je trouve que Charles Leclerc a surtout l'attitude de quelqu'un qui est très 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 confiant pour l'avenir. Et on sait que Ferrari travaille pour 2022 et je me demande s'ils ne sont pas en train de nous préparer un truc et si Charles Leclerc se dit que OK, 2021, c'est pas pour nous. Les grands, ils jouent devant, mais 2022, ça sera vraiment pour nous. Et il y a pas mal de je trouve, dans son langage corporel, dans ses réactions, qui me laisse penser ça. Il a surtout mieux géré ce week-end que Carlos Sainz, que j'ai trouvé un petit peu en difficulté sur la course sprint. Bon, il se fait un petit peu sortir par George Russell. Mais que fait Carlos Sainz à la bagarre avec George Russell? J'ai envie de te dire, normalement, les deux ne doivent pas se croiser en piste. Et il a été mis un petit peu sous les teignoirs par son coéquipier monégasque. Alors que je le rappelais en présentation de ce sujet, le seul podium de Ferrari depuis le début de la saison, et c'était en plus à Monaco, c'est Carlos Sainz qui l'avait ramené. Donc il y a ça aussi qui doit faire particulièrement plaisir à Charles Leclerc. C'est quelque part, il reprend la main aussi dans son équipe. C'est des points importants aussi au niveau du classement des pilotes. Donc c'est tout bénef. Pour Charles Leclerc. Évidemment, la cerise sur le gâteau, ça aurait été de pouvoir s'imposer. Et honnêtement, finalement, il aurait mérité parce que c'était indéniablement quand même l'homme de la course, même s'il y a eu une belle remontée de Lewis Hamilton. Mais je pense que tout ça fait que... Et d'ailleurs, les félicitations de Mattia Binotto aussi, qui lui dit « t'as pas à être déçu, t'as fait une course vraiment exceptionnelle ». Il a fait une course de vainqueur, sauf que ce jour-là, il y en avait un qui était un petit peu au-dessus de lui. Lui et sa voiture, c'est Lewis Hamilton. Et donc, ça le replace un petit peu par rapport à Carlos Sainz.
Ah ben, ça le replace carrément. Charles Leclerc est considéré comme le leader à la Scuderia Ferrari. Alors, au classement du championnat, c'est pas très net. Leclerc a 80 points, Sainz en a 68. En revanche, dans le duel en qualif, on voit clairement que Sainz est devenu un numéro 2, comme les Bottas chez Mercedes et Perez chez Red Bull. J'ai regardé, en qualif, Leclerc mène 8-2 par rapport à Sainz. C'est le même score, je crois, pour Hamilton par rapport à Bottas, tandis que Verstappen mène 9-1. Par rapport à Perez, ça veut dire que là, on a un petit déséquilibre. Et alors, Sainz est booké jusqu'en 2022 chez Ferrari, mais je me demande s'il ne faudrait pas incrémenter encore la valeur de ce coéquipier par rapport à Leclerc. Parce que quand il a signé, c'est vrai que la Scuderia Ferrari était au plus bas quand même. Et je ne sais pas s'il ne faudrait pas maintenant dynamiser un petit peu ce tandem pour pousser encore un petit peu plus Leclerc, qui assure quand même le gros du travail, un formidable travail, il est complémentaire avec Sainz, mais c'est lui qui, quand même, concrétise les résultats. Il gagne une place encore au départ dimanche en passant Bottas, qui est quand même pas rien, et c'est ce qui le met en situation
de gagner.
Ensuite, tandis que, comme tu l'as dit, Sainz, il a fait deux petites erreurs, il a dit en qualif vendredi, qu'il l'a mis 9e sur la grille, je crois, pour la course sprint samedi, juste derrière Russell. Ah ben, quand tu roules à côté de Russell, qui n'a pas une grosse expérience à ce niveau-là, à ce niveau du peloton, à rouler devant, tu t'achètes des problèmes, tout simplement. Alors après, il a dit qu'il n'avait rien à faire là. Je pense qu'il était un petit peu énervé aussi. Mais Sainz, il est globalement un petit peu faible en qualif. Et je trouve qu'il est un petit peu loin maintenant. J'ai regardé aussi les places moyennes en fait, sur la grille de départ. Leclerc, c'est 5e. Et Sainz, sa place, c'est 7,5, presque 8. Donc, ça fait quand même 3 positions d'écart, ça fait beaucoup. Bon. Et pour revenir à ces résultats de ce Grand Prix à Silverstone, je dirais, alors comme l'avait précisé Sainz, on l'avait dit il y a 15 jours, il avait fait une remarque, il a dit en ce moment, plus les pneus sont durs, mieux c'est pour la Ferrari. Alors, il y a eu des progrès de fait, puisque Leclerc s'est qualifié 4e quand même en pneus tendres, donc ce qui est quand même pas rien. Mais le plus important, Mattia Binotto l'avait dit, c'est la course, c'est les réglages de course. Et là, ils ont eu un petit peu de chance quand même ce week-end, parce que Pirelli avait centré ses gommes sur la gamme la plus dure, C1, C2, C3. Et là, ça avantage clairement Ferrari. Tout le monde est parti en pneus médium pour la course. Donc, c'est là aussi, de samedi, là aussi où Leclerc a pu performer. Et puis, dimanche, ils ont fait la séquence médium dur. Et là aussi, ça avantageait Ferrari. Alors, tant que ce sera comme ça, je dirais que ça sera pas mal. Moi, j'ai regardé, parce que Gilles, tu posais la question, est-ce qu'ils peuvent remporter une course? Est-ce qu'il y aura d'autres grands prix comme ça où ils sont un petit peu favorable. Il y aura 3 courses où, justement, Pirelli apportera la gamme la plus dure de pneus, donc c'est Zandvoort, Suzuka et Istanbul. Et puis 2 grands prix où ça sera la gamme la plus tendre. Alors ça, Ferrari souffrira un peu plus. Bon, et tout le reste, ça sera centré parce qu'on va du plus dur au plus tendre de C1 à C5. Voilà. Donc ça sera centré. Donc on verra ce que ça donne pour Ferrari.
Alors, juste une petite remarque par rapport aux pneus. Effectivement, il y a la dureté ou la tendresse des gommes, il y a
ou
aussi
la tendreté.
Ouais, tendreté.
Je sais pas comment dire.
il y a aussi la structure du pneu qui peut jouer. Et là, on sait qu'on avait donc amené les nouveaux pneus arrière avec une structure plus résistante. Il faut bien différencier hein, pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent. Il faut bien différencier si la gomme est dure ou tendre et la structure du pneu qui peut être plus ou moins rigide. Et peut-être que c'est aussi un pneu plus rigide qui peut aussi scier davantage aux qualités de la Formule 1. Ça, faudra garder un œil là-dessus.
C'était pour les pneus arrière oui. à Silverstone, mais ce qui avait choqué vraiment Ferrari, c'était le grainage excessif, énorme, au castelet sur les pneus avant, sur le médium et sur le dur. Et là, ils étaient dans une impasse. Ils ont engagé un gros travail d'analyse là-dessus qui paye. Vraiment, c'est ça qui paye maintenant aujourd'hui. Et ils ont bien ciblé le domaine où il fallait regarder la performance et c'est ça qui marche.
Alors, l'autre question, on s'est demandé s'ils pouvaient gagner. Faut peut-être qu'on y réponde. Malheureusement, je serais tenté de te dire, il faudrait quand même un cas de figure assez exceptionnel, comme on l'a vécu là à Silverstone, et on a vu que même une pénalité de 10 secondes pour Lewis Hamilton, ça ne suffirait pas, et un Sergio Perez aussi à la cave, qui est parti dernier sur la grille et qui n'a pas existé dans ce Grand Prix. Malheureusement, j'ai envie de dire, à la régulière, c'est impossible, et des cas de figure comme ça, je ne sais pas s'il s'en reproduira hein, cette saison. On est passé quand même dans un cas de figure qui était quand même très favorable.
Oui, puis il ne faudra pas gâcher les pit-stops parce que Sainz aussi a passé beaucoup de temps au stand et on s'est d'ailleurs dit, mais pourquoi est-ce qu'un problème technique comme ça gâche la course d'un pilote? On a eu la même réflexion, Gilles.
Normalisation du matériel pour toutes les équipes.
Tout à fait.
C'est fourni par la FOM, c'est le même pistolet, les mêmes écrous, débrouillez-vous.
On fait 5 secondes minimum. Oui. pour l'opération, comme ça sera pas. Parce que la Formule 1, ce n'est pas un championnat de mécaniciens et je trouve que c'est leur mettre trop de pression sur les épaules. Ils font un travail fantastique, mais il ne faut pas leur ajouter ça le dimanche.
Je suis d'accord. Mais bon, ça sera encore un autre sujet de conversation. On peut même demander à des team managers de venir en parler avec nous. Je suis sûr que ça serait intéressant. On pourrait même mettre les ravitaillements dans l'histoire. Parce que moi j'aimerais bien.
Ouais. Et le régulateur a d'ailleurs.
Allez, vas-y, finis.
Non, et le régulateur a d'ailleurs renoncé. Le régulateur a d'ailleurs renoncé à imposer des délais de réaction, 15 centièmes pour un mécanicien qui a fini de changer sa roue et qui prévient en fait les vitres, et puis 2 dixièmes encore entre la voiture posée au sol et l'autorisation de redémarrer au feu vert. Voilà. Donc on laisse ça de côté, on a un petit peu capitulé, le problème reste entier.
Voilà, ça c'était pour terminer sur Ferrari, mais il n'y a pas eu que eux hein, d'ailleurs qui ont eu des soucis ce week-end, c'était un petit peu compliqué pour pas mal d'équipes. Avant de nous quitter, on va quand même indiquer à ceux qui nous suivent qu'on va faire une petite trêve. Et ce n'est pas pour aller se dorer la pilule à la plage, hein, vous inquiétez pas, mais c'est pour cause de Jeux Olympiques. Toute la rédaction d'Eurosport qui sera mobilisée là, pour un peu plus de 2 semaines sur l'Olympiade Tokyo 8. Les fous du volant vont donc faire une petite impasse sur le Grand Prix de Hongrie. On se retrouvera, mon cher Stéphane, le 24 août, le mardi 24 août, pour notre reprise. Ça sera le mardi qui précédera le Grand Prix de Belgique sur le circuit de Spa. Et puisqu'on parle du Grand Prix de Spa, un message aussi, une forte pensée à nos camarades belges et à ceux qui sont dans la région de Spa, qui ont encore vécu un épisode terrible avec les inondations. On pense évidemment aussi à tous ceux qui sont en Allemagne, en Pologne, bref. On pense à tous ceux qui passent pas des très très bons moments en ce moment et on se sent un petit peu finalement privilégié d'être loin des ennuis. On pense à eux. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et puis à vous abonner comme ça au prochain numéro des Fous du Volant. Ça arrivera directement dans votre smartphone. Stéphane, on a été très bavard aujourd'hui, mais il y avait des choses à dire. On se retrouve donc pour le prochain numéro des Fous du Volant avant le Grand Prix de Belgique. On vous souhaite des belles vacances, un bon Grand Prix de Hongrie. Stéphane, d'ici là... On coupe le contact.
Le contact.
Salut.
Salut, Timmy.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.